L'Assemblée du peuple Guarani Itikaguasu, la PGIG, fait constamment l'objet d'attaques racistes depuis que, grâce à la constitution de son propre fonds de développement, elle a mis en place des programmes sanitaires, éducatifs et productifs. Le fonds en question trouve son origine dans l'accord que la PGIG a signé le 29 décembre 2010 avec les compagnies pétrolières opérant sur le Campo Margarita, à savoir Repsol Bolivia, British Gas et la représentante de British Petroleum, EEP. C'est la première fois en Bolivie qu'une organisation autochtone possède un fonds d'investissement et selon des sources financières fiables, il s'agit d'une première en Amérique latine. Ce fonds est le fruit d'un accord qui reconnaît toutes les revendications de la PGIG, entre autres la reconnaissance juridique, la reconnaissance des us et coutumes, la reconnaissance de la terre communautaire d'origine, TCO, la reconnaissance du droit international en matière de droits des peuples autochtones et de droits de l'homme, la reconnaissance et l'évaluation des dommages environnementaux grâce à des audits indépendants réguliers tout au long de la durée de vie du contrat, la couverture des dommages grâce à des polices d'assurance valables et efficaces et la garantie de restitution des terres dans leur état d'origine à la fin du contrat. Le fonds d'investissement Itikaguasu a été constitué en mars 2011. Il a pour objectif le développement d'actions garantissant l'éducation, la santé, la production, le logement et les services de base aux 36 communautés vivant sur la terre communautaire d'origine Itikaguasu. Jusqu'à aujourd'hui, en raison de préjugés qui n'ont d'autres explications logiques que le racisme, ce pouvoir de décision propre du conseil directeur de l'APGIG et des 36 autorités communautaires qui la composent a été la cible de critiques et d'attaques, surtout de la part du gouvernement national dont les membres, dans leur conception remplie de préjugés, croient que les autochtones ont été bernés ou achetés par les entreprises ou escroqués par les ONG étrangères. Ce n'est pas ce qui s'est passé, et depuis la mi-février 2011, la PGIG a entamé sa marche vers ce que les Guarani appellent la terre sans mal. Dans ce cadre, la PGIG a mis sur pied le programme sanitaire Famille saine d'Itika, qui est parvenu entre autres à faire de la PGIG la première organisation autochtone du département de Tarija à fournir une assistance médicale, communauté par communauté, maison par maison, à l'aide d'un échographe portable. Soulignons que le programme de santé familiale interculturelle de Tarija ne compte d'échographe portable que depuis un an. La première action adoptée par le conseil directeur de l'APGIG juste après la constitution du fonds a été d'acquérir cet échographe et d'embaucher un médecin. Le programme sanitaire de l'APGIG fournit une assistance médicale, couvre les frais de médicaments et le coût des analyses, ainsi que le transport des patients et de leurs familles vers les centres de santé d'Entre Ríos ou de Tarija. Il a même pris en charge le coût d'opérations chirurgicales dans des cliniques privées, alors que les autochtones malades n'étaient pas reçus à l'hôpital San Juan de Dios à Tarija. Entre 2011 et aujourd'hui, des prestations médicales ont été fournies dans les 36 communautés de la TCO Itikaguasu, et 6232 patients, nombre d'entre eux bénéficiant désormais de traitements spécialisés qui ont nécessité des investissements conséquents, tant en médicaments qu'en études et spécialistes, ont pu recevoir des soins grâce aux ressources propres de la PGIG. Le département sanitaire a également mis en marche une maison de santé à Tarija, où les patients Guarani de la PGIG reçoivent une attention pré- et post-opératoire, garantissant ainsi les conditions de guérison après une opération chirurgicale et leur permettant de se reposer dans un environnement respectant à la fois les conditions d'hygiène, les soins et l'alimentation, et leurs us et coutumes. Depuis la mise en place du fonds jusqu'à aujourd'hui, la PGIG a investi plus de 500 000 dollars dans son programme sanitaire. Ceci dit, comme l'exprimait Never Barrientos, président de la PGIG, lors d'un discours prononcé lors de la présentation officielle des cabinets de consultation mobile par le gouvernement départemental de Tarija, pour consolider ce programme, le soutien des institutions publiques est nécessaire. La PGIG ne s'est pas contentée de mettre en place le programme sanitaire en respectant des pratiques propres aux politiques publiques concernant la santé, ou tout du moins des paramètres que ces politiques devraient réunir. Elle a également fait de grandes avancées dans le domaine de la production de maïs. Pour ce faire, elle a établi un diagnostic dans chaque communauté et a pourvu la zone de production Maitiregua, qui a fait ses premiers pas en 2012 et 2013, produisant initialement environ 100 hectares de maïs avec le soutien de la municipalité d'Entre Ríos. Diagnostic en main et grâce aux ressources du fonds d'investissement Itikaguasu, la PGIG s'est dotée en 2013 de matériel, un tracteur John Deere, un camion, une remorque, une égraineuse et d'autres équipements. Elle a dans le même temps acheté des semences de maïs de qualité certifiée, ce qui, dans son ensemble, a permis de lancer des semailles sur environ 1000 hectares. Elle a pu, grâce à sa zone de production Maïtirewa, stocker dans ses silos jusqu'en août 2014 environ 7000 quintaux de maïs. Ces progrès dans la production ont connu un arrêt brutal à la suite d'une intervention illégale de l'autorité de supervision du système financier, l'ASFI, à la demande, nous le savons maintenant, du malveillant sous-gouverneur Walter Ferrufino, soutenu par le ministère des Hydrocarbures et de l'Énergie. Ces fonctionnaires, malgré l'absence de compétences de l'ASFI à ce sujet, sont parvenus à bloquer les comptes de l'APGIG, empêchant les programmes Famisen d'Itika et Maïtirewa de continuer. Au moment du blocage, plus de 1000 hectares avaient été semés. Avec cette conduite illégale, le gouvernement bolivien et l'extrême droite locale de type réactionnaire et raciste sur laquelle il s'appuie à Tarija et dans la province d'Oconor empêchèrent que l'APGIG puisse mener à bien les semailles pour la période 2014-2015 et puisse poursuivre le programme sanitaire, occasionnant de nombreux dommages irréversibles, parmi lesquels, pour les plus graves, la perte de vies humaines et de la sécurité alimentaire. Le peuple guarani, force tranquille, a supporté ces offensives et a fait tout son possible pour reprendre ses programmes visant à améliorer les conditions de vie des Itiquenos dès que l'ASFI a rectifié son erreur en février 2015. Ainsi, un paquet scolaire fut distribué à tous les élèves guarani de l'APGIG. En 2013 déjà, l'APGIG avait mis en place la prime à l'enfant guarani, en hommage tout d'abord au fait que le 12 avril 2011, l'arrêt de la Cour constitutionnelle 2003-2010 fut formellement notifié, ratifiant le droit de propriété de l'APGIG sur les 216 000 hectares que comprend la TCO Itika-Guasu, et ensuite parce que le 12 avril est le jour des enfants en Bolivie. Entre avril et juin 2013, l'APGIG distribua cette prime à tous les élèves dans chaque communauté. Cette année-là, ils furent 1200 à en bénéficier, celle-ci équivalant à la prime Juancito Pinto octroyée par le gouvernement bolivien. Lors de l'exercice fiscal 2014, les besoins des élèves n'ont pas pu être satisfaits, précisément à cause du harcèlement du groupe de Capangas, comme ils sont appelés au sein de l'APGIG, c'est-à-dire des capos au service des seigneurs et autorités locales et du gouvernement, qui instrumentent et se servent d'individus, guarani ou non, pour tenter de supplanter les autorités autochtones réelles, de façon à faire pression sur les habitants de la TCO, les menacer et les persécuter, même au niveau judiciaire, par le biais de ces capangas. Devoir faire face à ce harcèlement a entravé la marche normale des activités de l'APGIG. Pourtant, le 3 août 2015, poursuivant son projet éducatif, l'APGIG a entamé la distribution officielle du paquet scolaire guarani dans plusieurs communautés lors d'événements publics présidés par le président de l'organisation, Never Barrientos, et par des membres du conseil directeur et du département éducatif. À la mi-août 2015, 850 paquets scolaires avaient déjà été distribués sur un total prévu de 1577 par le département éducatif, selon le cadre statistique détaillé des élèves inscrits au niveau préscolaire, primaire et secondaire au sein de la TCO Itika-Guasu, élaboré entre avril et mai par ce même département. Étonnamment, alors que tout le monde dans le département de Tarija se demande où sont passés les millions provenant de la rente du pétrole et du gaz du champ Margarita se trouvant sur la TCO Itika-Guasu, l'Assemblée des Muruichas du peuple guarani Itika-Guasu, en décembre 2010 déjà, avait décidé que la compensation payée par Repsol YPF Bolivia devait servir non pas un an, mais 10, 20 ans, et avait pour ce faire trouvé un mécanisme consistant en la création d'un fonds d'investissement qui permettrait à l'APGIG de réaliser ses objectifs de développement et d'amélioration des conditions de vie des autochtones à moyen et à long terme. L'APGIG adopta également un règlement pour le fonds inclus dans le statut officiel de l'organisation. Précisons que même si les décisions des autorités de la juridiction autochtone originaire adoptées conformément à leurs propres règles et procédures sont efficaces dans la juridiction ordinaire, l'APGIG a authentifié et enregistré, dans le but de normaliser le travail administratif ordinaire, tout ce qui concerne sa personnalité juridique et les mandats de gestion au sein de l'organisation. Il est évident que constituer un fonds d'investissement n'aurait pas été possible si toutes ces conditions n'avaient pas été remplies. L'APGIG est également enregistré conformément aux conditions exigées par le Code civil bolivien pour les associations. Le cas de l'APGIG est unique en Amérique latine. Premièrement, car elle a négocié sur un pied d'égalité avec une entreprise et est parvenue à ce que les normes du secteur qui s'appliquent à elle soient au minimum les mêmes que celles qui s'appliqueraient dans n'importe quel pays central, qui sont bien plus exigeantes que celles négociées par le gouvernement au nom de tous les Boliviens. Et deuxièmement, car avec ce qu'elle a perçu, elle a constitué et gère un fonds d'investissement visant à améliorer les conditions de vie des Guarani de la TCO Ithaca Huasu. Peu de peuples autochtones y sont parvenus, et en Amérique latine, aucun. Peu de peuples autochtones gèrent leurs maigres ressources avec un tel résultat et avec une efficacité que l'administration publique devrait reconnaître et prendre en exemple, du moins pour ce qui touche au traitement des affaires autochtones. Cette persécution permanente de la part du ministère des Hydrocarbures et de l'Énergie et du gouvernement en général est dès lors grossière et aberrante juridiquement parlant. La mise en œuvre et l'exécution de cette décision prise par l'APGIG d'investir dans la santé, l'éducation et la production, en gérant ses ressources de manière transparente et comme le ferait un bon entrepreneur, un bon père de famille, en s'adaptant en outre aux us et coutumes des Itiqueños, contraste avec l'absence d'objectifs adaptés à la réalité des autochtones qui a jusqu'aujourd'hui dominé les politiques liées à ceux-ci adoptées dans le département de Tarija. L'efficacité de l'APGIG tranche avec l'inefficacité à ce jour de l'unité des affaires autochtones, l'UDAIPO, qui a compté jusqu'à 40 employés sans que la moindre amélioration des conditions de vie de la population autochtone du département soit perceptible. Alors qu'elle dispose de beaucoup moins de ressources, l'APGIG, en respectant le mandat conféré par sa population, a mis en place les programmes décrits, en pratique et non en parole, en ayant à affronter des attaques impitoyables, car elle s'est préoccupée de la santé de ses frères, a investi dans l'éducation de ses enfants, a encouragé la production de maïs, les accusations dont elle a fait l'objet étant clairement diffamatoires et calomnieuses. Rappelons que celui qui fut exécutif sectionnel et qui est désormais sous-gouverneur de la province d'O'Connor, Walter Ferrufino Nogaité, emploie depuis au moins 2 ans un groupe d'une 20aine de personnes qui a pour objectif de harceler les organisations Guarani en employant des méthodes mafieuses, fausses accusations, menaces, intimidations, extorsions et cooptations forcées. Pour parvenir à leur fin illégale, ils instrumentent plusieurs types de faux documents avec lesquels, grâce au soutien que leur apportent des avocats faisant eux aussi partie du groupe, ils prétendent usurper la personnalité juridique des organisations et de leurs dirigeants. Ce groupe de Capangas, organisé par le malveillant sous-gouverneur Walter Ferrufino, appartenant à l'extrême droite de type réactionnaire et raciste sur laquelle s'appuie le gouvernement bolivien dans cette région, a pour fer de lance les Guarani Hugo Arevalo Corimayo, son frère René et son oncle Anastasio Arevalo. Ces deux derniers travaillaient en tant que fonctionnaires publics en 2014 et tous trois sont soumis à des sanctions prises selon les us et coutumes par l'APGIG depuis octobre 2012, date à laquelle ils ont été formellement expulsés des communautés et interdits d'occuper des postes de représentation de l'APGIG tant au niveau interne que vis-à-vis de tiers. Tant et si bien que dans le coin, on commence à parler du cartel Ferrufino Arevalos en allusion à l'origine douteuse des énormes sommes d'argent dont ce groupe dispose. Contre vents et marées, face aux attaques et au harcèlement exercé et aux entraves continuellement posées par le gouvernement provincial d'O'Connor et par le gouvernement, principalement via le ministère des Hydrocarbures et de l'Énergie et maintenant également via le ministère de l'Intérieur, l'APGIG gère son fonds de développement de manière efficace et transparente en respectant toutes les exigences légales et remet chaque année son bilan audité. Il est déplorable que ce harcèlement systématique oblige l'APGIG à consacrer des ressources à répondre aux attaques permanentes et que ses agissements lui aient provoqué d'innombrables pertes, tant en vies humaines puisqu'elle n'a pu fournir d'assistance médicale et hospitalière à des Guarani qui ont fini par mourir, qu'à un niveau matériel, notamment en empêchant de finaliser la récolte pour la période 2013-2014 et d'effectuer les semailles pour 2014-2015. Les élèves des internats de la TCO Ithaca Huasu n'ont pas non plus reçu de provisions lors de cette interruption. L'APGIG doit faire face à de fausses incriminations et à de fausses affaires pénales, auxquelles il faut ajouter les incursions dans les communautés de ce groupe organisé dont le but est d'annihiler l'organisation autochtone pour menacer les Guarani, diffuser de fausses rumeurs et payer des pots de vin. Acheter les gens avec de l'argent également de provenance douteuse fait partie de la stratégie du ministère des Hydrocarbures visant à supplanter les autorités légitimes et légales de l'APGIG, et non seulement de celle-ci, mais également d'autres peuples Guarani, tant dans le département de Tarija que dans celui de Chuquisaca et de Santa Cruz. En réalité, Nous assistons à une stratégie de harcèlement et de désintégration des Guaranis de Bolivie. Prenons comme exemple l'attaque réalisée par les membres de cette association illicite au siège du Conseil des capitaines Guaranis de Tarija en octobre 2014. Cette attaque fut emmenée par le présumé nouveau président élu du Conseil, Abraham Espinoza Montoya, non Guarani, emprisonné à La Paz en mars 2015, accusé d'extorsion, de menaces et d'autres délits connexes commis à l'encontre du député Guarani Jacinto Vega Rivero et d'autres dirigeants Guarani, tous du département de Tarija. Signalons que cette arrestation fut possible, malgré la protection dont bénéficie cet individu, parce qu'il fut surpris en flagrant délit. Abraham Espinoza est également responsable de son propre aveu, avec de hauts fonctionnaires du ministère des Hydrocarbures, du blocage des comptes bancaires de l'APGIG, qui dura près de 6 mois et coûta des vies et provoqua des pertes économiques s'élevant à plus $1 million à l'organisation autochtone. Selon des informations fournies par le département d'analyse criminelle et de renseignement de la police de Tarija, qui figure dans la procédure ouverte par le parquet de cette ville, le groupe raciste, composé entre autres d'Abraham Espinoza et d'Hugo Arevalo, est responsable du pillage du siège du Conseil des capitaines de Tarija. Une autre affaire récente qui a provoqué de nombreuses critiques vis-à-vis de la réaction du gouvernement et des forces de l'ordre est l'attaque lancée contre les autochtones de la TCO Tacovomora, également Guarani. Les autochtones de Tacovomora ont bloqué des routes après la violation de leur droit à être consultés chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement, ce qui est le cas des explorations pétrolières que l'entreprise publique YPFB a entrepris sur leur territoire dans le bloc appelé El Dorado. Ils demandent également au gouvernement la dérogation d'au moins 3 décrets qui autorisent l'exploration sur les territoires autochtones sans respecter le droit à la consultation envisagé dans la constitution politique de l'État et dans les lois. Ces 3 décrets ont été signés par le président Evo Morales en moins de 60 jours et menacent les droits des peuples autochtones et la Constitution. Le décret 2366 autorise l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures dans des zones protégées et sans garantie environnementale. Le décret 2195 concerne la compensation financière liée à l'activité pétrolière sur les territoires autochtones et paysans. Le décret 2298, qui, alors qu'il n'est qu'un décret et donc inférieur aux lois dans la hiérarchie des normes, modifie de fait la loi sur la consultation préalable aux peuples autochtones dans les projets d'exploitation d'hydrocarbures. Les Guaranis de la TCO Tacovomora ont décidé d'entamer un blocage afin que leurs revendications soient entendues. Le 18 août 2015, la police a rompu le barrage qu'ils maintenaient à Yateirenda, sur la route entre Santa Cruz et Yacuiba, les réprimant violemment et faisant usage d'une force disproportionnée, comme l'a lui-même reconnu publiquement le procureur de la municipalité de Cabezas, qui est compétent territorialement. Résultat de l'intervention policière, 26 personnes arrêtées, la plupart autochtones, parmi lesquelles 4 mineurs. Après l'audience préliminaire contre les détenus, 9 d'entre eux ont été libérés et les autres font l'objet de mesures préventives aberrantes qui les privent du droit à la réunion et à la manifestation. Les Guaranis ont dénoncé l'emploi de la violence lors des arrestations. Ils ont notamment indiqué que les agents de police ont détruit des véhicules et des motos, ont pénétré dans les habitations pour emmener plusieurs personnes et parfois se sont emparés des enfants pour les utiliser comme monnaie d'échange afin de parvenir à des arrestations. L'objectif ultime, selon des témoins directs, était l'arrestation des dirigeants autochtones, comme le prouve le fait que des effectifs policiers pénétrèrent dans les habitations de la communauté de Yateirenda après que les policiers ont débloqué la route. La question de fond relève une fois de plus de la propriété des autochtones sur les territoires ancestraux. Les autochtones de la capitainerie Tacovomora demandent depuis 19 ans que leurs terres communautaires d'origine soient enregistrées. En revanche, des titres de propriété sont octroyés à des tiers, souvent des entrepreneurs et des éleveurs, qui s'installent en territoire Guarani, ce qui a pour conséquence que les opérations d'exploration pétrolière sont effectuées sur ces terrains prétendument privés. L'entreprise publique YPFB prétend que 4 puits de pétrole du bloc El Dorado seront creusés sur les propriétés privées de Chivatos et San Juan de El Dorado de 3500 hectares. Les Guaranis assurent qu'il s'agit de leur territoire et ont demandé à la branche départementale de Santa Cruz de l'Institut national de réforme agraire que ces terrains leur soient restitués. Le ministre de l'Intérieur, M. Romero, a justifié le déblocage effectué par la police. Il a répété que la zone où sont effectuées les opérations d'exploration pétrolière se trouve en dehors de la TCO. Les déclarations du ministre de l'Intérieur, ne tenant pas compte de la TCO et des droits des peuples autochtones qui en sont propriétaires, constituent un acte de félonie symptomatique d'une probité éthique et morale déficiente. Ces déclarations et le comportement des forces de l'ordre à sa charge offrent un contraste radical avec les valeurs, principes et droits qu'il défendait publiquement lorsque, alors qu'il était directeur exécutif du Centre d'études juridiques et d'investigation sociale, le CEJIS, il publiait des communiqués en défense du droit des peuples autochtones à leur territoire. Il dénonçait également la vulnérabilité juridique à cette époque du CEJIS, dont les membres, après avoir été attaqués, étaient traités comme des agresseurs par les instances de l'État, et ce, en raison de la défense juridique qu'ils dispensaient dans des affaires relatives aux titres de propriété de territoires autochtones, par exemple le processus pour l'octroi de la propriété du territoire de Monteverde. Dans un de ses communiqués, daté du 3 octobre 2001, le ministre de l'Intérieur actuel écrivait ceci. Le 27 septembre, le gouvernement national et la Chambre agricole de l'Orient bolivien ont souscrit à une convention dans laquelle est clairement exprimé l'intérêt de légaliser la dépossession des territoires autochtones et des terres paysannes, au point d'entendre établir des normes qui favorisent l'octroi définitif de titres de propriété obtenus pendant la dictature de Luis García Mesa ou des dispositions draconiennes telles que celles concernant la charge animale, grâce à laquelle, avec quelques têtes de bétail, les accapareurs et trafiquants de terres pourront s'approprier d'étendues considérables qui, comme ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui, ne serviront qu'à la spéculation et à l'enrichissement facile. La flexibilisation extrême des normes de vérification du respect de la fonction socio-économique de la propriété agraire poursuit le même objectif. Dans cette convention, le gouvernement s'est engagé à ratifier et à faire appliquer le décret suprême anticonstitutionnel qui vise à entraver le travail des ONG qui soutiennent des peuples autochtones et des organisations paysannes, l'intention de la Chambre agricole de l'Orient bolivien étant clairement établie dans le sens de restreindre au maximum les possibilités pour les autochtones et les paysans de défendre au plan légal et constitutionnel leurs droits reconnus par la législation bolivienne en vigueur. Ses antécédents montrent que M. Romero est parfaitement au courant du modus operandi employé par les instances de l'État pour dépouiller les peuples autochtones de leur territoire, comme il a pu le vivre avec l'Institut national de la réforme agraire. Il est donc parfaitement conscient que ces déclarations sont mensongères. C'est d'autant plus grave lorsque ces interventions viennent d'un fonctionnaire qui est tenu de respecter et de faire respecter la loi. Cela s'applique également au vice-président Álvaro García Linera, qui a lui aussi fait partie du CEJIS et est tout aussi au courant de ce modus operandi visant à priver les peuples autochtones de leurs terres. L'intention du ministre de l'Intérieur et du vice-président est donc clairement établie dans le sens de restreindre au maximum les possibilités pour les autochtones et les paysans de défendre au plan légal et constitutionnel leurs droits reconnus par la législation bolivienne en vigueur. Le but ultime est donc de priver les Guarani de l'exercice de leurs droits en tant que peuple propriétaire de leurs terres ancestrales. C'est dans ce contexte qu'il faut analyser la récente décision du président Evo Morales de les exclure du nouveau fonds indigène, une décision de plus dans la stratégie gouvernementale allant à l'encontre des organisations Guarani et de leurs dirigeants. Ainsi, le décret suprême 2493, adopté le 26 août 2015 par l'exécutif, créer le Fonds de développement autochtone, disposant d'une structure organique différente de celle du précédent Fonds de développement pour les peuples autochtones originaires et pour les communautés paysannes, le Fondioc, dont l'efficacité a été nulle, en partie parce qu'une partie du fonds a été utilisée dans des projets qui n'avaient rien à voir avec sa prétendue finalité et que sa gestion a été entachée d'actes de corruption pour lesquels des réclamations se font déjà entendre afin de trouver les responsables au niveau supérieur. Ne disposeront pas de représentation au sein de la structure du nouveau Fonds de développement autochtone, la Confédération syndicale des colonisateurs de Bolivie, l'Assemblée du peuple Guarani, la PG nationale, la coordinatrice des peuples ethniques de Santa Cruz et la centrale des peuples ethniques Moxos du Béni. Étonnamment, ce sont les mobilisations emmenées par l'APGIG qui aboutirent à l'époque à la création du Fondioc, bien que l'APGIG, au vu de la réglementation du fonds, n'a jamais sollicité de financement pour aucun projet, puisque, d'après son département juridique, tout était fait pour que l'argent soit mal administré et que tous les Guarani, et seulement eux, finissent par être accusés. Le temps leur a donné raison. Il n'en reste pas moins ironique que les Guarani, propriétaires des terres dont proviennent les revenus constituant le fonds, en soient exclus. Le mécanisme le plus pervers de démantèlement des organisations autochtones défendant leurs droits consiste cependant à nommer de faux dirigeants et à falsifier des documents en vue de faire valoir ces nominations auprès de diverses instances. Dans le cas de l'APGIG, Walter Ferrufino et ses sbires, principalement les frères Arebayo, se trouvant à la tête de la machination, ont été jusqu'à falsifier des actes des communautés et à se livrer à des actions graves, comme faire figurer la signature d'enfants de moins de 10 ans, comme s'il s'agissait de comunarios possédant le droit de vote. Avec de tels agissements, ils ont tenté de faire valoir auprès de diverses instances la nomination d'un nouveau conseil directeur de l'APGIG et la destitution, selon eux, du précédent conseil, sans évidemment respecter aucune des procédures et formalités requises par le statut en vigueur, adopté à l'unanimité par les 36 communautés de l'APGIG. La manœuvre a été tellement loin que sur base de documents trafiqués et frauduleux, le notaire public d'Entre Rios, ville où se trouve le siège de l'APGIG, à l'époque, enregistré des pouvoirs au nom d'Hugo Arevalo et d'Eugenio Catuire, membres du cartel Ferrufino. Ces falsifications ont également touché les APG de Villa Montes et Bermejo, ainsi que le conseil de capitaine de Tarija, qui doivent pour le moment se défendre contre un acte notarié frauduleux qui implique l'usurpation des autorités élues selon les us et coutumes, grâce auquel l'association criminelle des Arevalo confère un mandat à Abraham Espinosa, mentionné précédemment et déjà accusé, en sa prétendue qualité de président du conseil des capitaines Guarani de Tarija. Une des instances auprès desquelles ce groupe criminel a tenté de faire valoir son mandat a été le tribunal électoral départemental de Tarija, qui a dû finalement faire marche arrière et ne pas reconnaître ses faux pouvoirs. Ces agissements ont touché les APG de Yacuiba, Carapari, Villamonte, Iticaguasu et Bermejo, toutes membres du conseil des capitaines Guarani de Tarija, en d'autres mots, l'ensemble des Guarani du département de Tarija. Par conséquent, ces manœuvres ont motivé des résolutions conjointes de toutes les APG, confirmant les sanctions que l'APGIG avait prononcées contre les Arevalo et condamnant tous les usurpateurs de la juridiction autochtone, de manière à ce qu'ils ne puissent à l'avenir pas exercer de poste dans la communauté, dans la zone, dans le département, ni dans l'APG nationale, ni accéder à des postes publics ou politiques en représentation ou au nom du peuple guarani. L'APG Yacuiba, l'APG Carapari, l'APG Iticaguasu et l'APG Villamontes ont sanctionné plusieurs personnes. Parmi les personnes sanctionnées par l'APGIG se trouvent les frères Arevalo. Ce harcèlement et ces persécutions affectent également les Guarani du département de Santa Cruz, comme l'ont montré les terribles événements de Yateirenda et du département de Chuquisaca, dont le clan Arevalo a également tenté d'usurper les représentants. Le 31 juillet 2015, les différentes organisations Guarani se sont réunies en ce qu'elles appellent la Nation Guarani de Bolivie et ont condamné dans une résolution le comportement du président Evo Morales, qui n'a pas tenu compte de la Constitution ni des structures des nations et peuples autochtones. Cette assemblée a regroupé toutes les organisations Guarani de l'État plurinational de Bolivie qui ont adopté à l'unanimité un texte dans lequel elle détermine de condamner les actes publics célébrés par la présidence de l'État plurinational de Bolivie le 30 juillet 2015 dans la communauté de Ñaurenda de la TCO Iticaguasu et invalider tout accord, document et acte juridique qui aurait été généré lors de ces actes, puisqu'il bafoue la juridiction autochtone originaire et territoriale de chacune des organisations Guarani de Bolivie. Elle détermine également de déclarer et rappeler que tout accord et acte juridique qui pourrait découler des actes publics en question est nul et non avenu, car la représentation alléguée par les quelques Guarani présents à ces actes se base sur l'usurpation d'autorité, sur l'inauthenticité matérielle et idéologique et sur l'utilisation d'instruments falsifiés qui tous constituent des délits repris dans le code pénal en vigueur. Il faisait référence à un acte ayant eu lieu dans une des communautés de l'APGIG organisé par Evo Morales pour rendre légitime en apparence le feu vert que les Arevalo avaient donné au décret violant le droit à la consultation. C'est pour cette raison que l'APGIG et les autres organisations Guarani demandent aux fonctionnaires de YPFB et du ministère des Hydrocarbures d'arrêter de financer de manière irrégulière et illégale des organisations parallèles aux leurs. Certains secteurs exigent la démission du président de YPFB, Guillermo Acha, du ministre des Hydrocarbures, Luis Alberto Sánchez, et des employés du même ministère qui sont ceux qui dirigent, organisent et financent ces opérations illégales et qui fonctionnent comme une authentique organisation criminelle qui a été jusqu'à falsifier des documents publics, notamment des licences environnementales. Parmi ces personnes se trouve Xavier Eduardo Barriga Sinisterra, directeur général de gestion socio-environnementale du vice-ministère du développement énergétique dépendant du ministère des hydrocarbures et de l'énergie. Eduardo Alberto de los Ríos Colodro, chef de l'unité de prévention et de contrôle socio-environnemental de la Direction générale de gestion socio-environnementale dépendant du ministère des hydrocarbures et de l'énergie. Freddy Hurtado, communicateur social pour YPFB Villamontes, et Franklin Molina Ortiz, ex-vice-ministre du développement énergétique du ministère des hydrocarbures et de l'énergie. Au vu de tout cela, il est évident et notoire que le gouvernement bolivien non seulement néglige son devoir de protection des populations vulnérables, mais participe activement à une trame d'illégalité et d'extorsion visant à remplacer les organisations guaranies et par conséquent à obliger les entreprises du secteur extractif à se prêter à des agissements illégaux et à masquer les vices que ces actes occasionnent aux licences octroyées par le ministère sans consulter les représentants légitimes et légaux des propriétaires des terres ancestrales sur lesquelles ces entreprises opèrent. Est-ce que c'est cette sécurité juridique que le gouvernement bolivien veut donner aux investisseurs étrangers et nationaux ? Le cas de l'APGIG démontre qu'un peuple autochtone peut exercer son autonomie, en gérer les implications et améliorer les conditions de vie de ses membres. L'APGIG avait commencé par demander au gouvernement de Morales qu'il la protège face aux entreprises. Désormais, elle se contente de ce que ce gouvernement la laisse simplement poursuivre son propre plan de développement qui, comme cela a été établi, ne bénéficie d'aucune ressource ou aide publique. Faire face à cette ingérence dans les questions indigènes, qui vise à saper les structures et, finalement, les modes de vie des groupes autochtones, est en passe de devenir une question de survie cruciale. Si cela continue, c'est-à-dire si les principes constitutionnels de base et les lois internes consacrant et ratifiant le droit de propriété autochtone, le droit des autochtones à disposer de leurs propres institutions et formes de représentation, sans interférence, et le droit à la consultation préalable, libre et éclairée, continue à être violé, le gouvernement actuel entrera dans l'histoire comme celui qui a détruit le bien indissociable de l'essence et de l'être de tout peuple indigène, son territoire. Il y a un grand déséquilibre, ou en d'autres termes une grande différence, entre les faits et actions du gouvernement d'Evo Morales envers les peuples autochtones guarani et l'image de défenseur des autochtones que ce gouvernement et son président veulent donner à l'intérieur et en dehors de la Bolivie. La PGIG veut nous faire comprendre que ce qui est important pour elle est finalement quelque chose de très simple et qui pour n'importe quel gouvernement irait de soi. Que le gouvernement et tous les pouvoirs publics se conforment à l'arrêt de la Cour constitutionnelle de 2010 rendu en faveur de l'organisation et de la TCO Ithaca Huasu, par lequel la plus haute instance exhorte à l'exécution des normes internationales et constitutionnelles concernant les droits des peuples autochtones. Fondamentalement, les différentes APG demandent que soit respectée la constitution politique de l'État, en particulier dans la mise en œuvre de l'article 30 du chapitre 4, qui concerne les droits des nations et des peuples autochtones originaires paysans, et que soit appliqué et exécuté l'arrêt de la Cour constitutionnelle 2003-2010 en ce qui concerne le droit de consultation et de propriété autochtone et la possession de la terre. Elle demande également à ce que soient respectées les terres communautaires d'origine et par conséquent que chacune d'entre elles soit enregistrée sans délai et que le droit à la propriété autochtone soit garanti dans les mêmes conditions avec lesquelles on prétend défendre la propriété privée en ordonnant la consolidation des terres communautaires conformément aux dispositions de la loi 3760 et de l'arrêt de la Cour constitutionnelle 2003-2010 susmentionné. L'ambiance est tellement peu propice au peuple guarani que respecter les arrêts de la Cour constitutionnelle et la Constitution d'un côté et ne pas intervenir dans les affaires autochtones de l'autre sont devenus des souhaits difficiles à faire exaucer. Vous trouverez plus d'informations sur les droits des peuples autochtones en Bolivie sur la page consacrée à ce pays sur le site internet de documentation d'Equiponiscor. Sur ce site, Vous trouverez également le texte complet des normes et des décrets mentionnés dans ce programme, ainsi que l'arrêt de la Cour constitutionnelle 2003-2010 et toute la législation internationale applicable. Sur la page consacrée à la campagne raciste menée contre les Guarani en Bolivie, vous pourrez également suivre les divers faits de harcèlement et de persécution et la réponse officielle donnée par les organisations Guarani. Ce programme a été produit par Radio Niscor dans nos studios en Belgique le 5 février 2016.